Bon mercredi, mesdames et messieurs. Félix-Antoine Parent, animateur de l'émission d'affaires publiques L'Heure Juste, qui est avec vous, je pense, la prochaine heure. Avec vous en votre compagnie pour décortiquer plusieurs sujets. Assurément qu'on reviendra sur la victoire de Donald Trump, le nouveau président américain, 47e. Il a été le 45e, petite pause, 47e, c'est le premier à réussir cet exploit à revenir pour deux mandats non consécutifs depuis plus d'une centaine d'années aux États-Unis. On en parlera avec la députée de Pontiac, Kitty Ganzibi. Se fichait-elle qu'il y a un attachement personnel là, avec les États-Unis en raison de son mari qui est du Michigan? Donc, on pourra lui jaser à Mme Châtel, à voir ses réactions et voir comment elle entrevoit la suite des choses entre, par exemple, les relations entre le Canada et les États-Unis, niveau économique également. Donc, c'est à suivre. On commencera l'émission avec Sophie Châtel. Sinon, ben écoutez, il y a eu des investissements de consacrés là, à Masham dans le réseau préhospitalier, donc au niveau ambulancier pour être précis. C'est pas chez nous, mais comme c'est la coopérative des paramédics de l'Outaouais qui gère tout ça, si on a plus de marge de manœuvre à un endroit, est-ce que ça pourrait avoir un effet domino jusque dans la vallée de la Gatineau? La réponse est oui. On en parle avec Frédéric Parizeau, directeur du RLS des collines de l'Outaouais, mais qui est également directeur des services préhospitaliers d'urgence au 6 de l'Outaouais. En deuxième portion d'émission, c'est le dossier de la crise forestière qui retiendra l'attention. On jasera avec Patrick Finet, directeur général de la coopérative de solidarité des entrepreneurs de la Gatineau concernant les solutions présentées par la cellule de crise qui siège depuis l'annonce de la fermeture indéterminée des activités chez Produits Forestiers Résolus, désormais Domtar. C'est une question de nom, ça change rien dans les opérations, mais quand même, c'est désormais Domtar le nouveau nom. Mais pour les fins de la cause, on va dire Produits Forestiers Résolus. Et on finira cette émission avec Daniel Bourdon. Qui il est? Eh bien, il est maire de Mont-Laurier, préfet de la MRC Antoine Labelle. Il se joint à cette cellule de crise. Pourquoi? Bien, on lui posera la question en toute fin d'émission. Mais d'entrée de jeu, on était nombreux à regarder ce qui se passait du côté au sud de la frontière pour les élections américaines, alors que Donald Trump tentait hier de reprendre la Maison-Blanche après une absence de 4 ans. Kamala Harris tentait de se faire élire chez les démocrates et de devenir ainsi la première présidente des États-Unis. On connaît finalement l'issue de tout ça. Kamala Harris a perdu. Donald Trump revient à la Maison-Blanche. On en parle avec la députée de Pontiac, Kitty Ganzibi, Sophie Châtel, qui est au bout du fil. Madame Châtel, bonjour.
Oui, bonjour, Félix-Antoine.
C'est toujours mêlant. Quand Donald Trump est dans une élection, bien malin, celui qui peut prédire le résultat. On l'a vu la première fois qu'il a été élu. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Hier encore, on pensait que peut-être les démocrates allaient causer une surprise ou en tout cas allaient réussir à résister à M. Trump. Encore une fois, il a réussi à aller chercher l'appui des Américains. Votre réaction?
Oui, au point de vue personnel, Félix-Antoine, mon conjoint est originaire du Michigan, donc on suit ça évidemment de près. Il s'attendait lui aussi là, que la candidate démocrate Kamala Harris performe davantage, mais ça n'a pas été le cas, y compris dans l'État du Michigan, qui était un « battle state », comme on dit, là, un État « swing ». C'est sûr qu'on se réveille ce matin avec un constat. Par contre, faut dire que le gouvernement canadien, nous, on est prêts. On s'est déjà préparé à cette alternative. On a déjà des communications avec l'équipe Trump qui est en train de se monter depuis plusieurs semaines déjà. On a l'expérience aussi de gérer les relations avec le président Donald Trump. Ça a été 4 ans d'apprentissage dans son premier mandat à lui, à Donald Trump. Mais on a le réseau. C'est sûr que c'est beaucoup de diplomatie sur des enjeux très simples, entre autres la gestion de l'offre, qui est un enjeu même si Kamala Harris aurait été élue, mais tout ce qu'on est prêt à affronter, on l'a fait dans le passé, on a l'expérience nécessaire et la stabilité d'une équipe qui est prête à gérer ces relations-là, qui vont être difficiles, mais en même temps, T'sais, les États-Unis et le Canada, ce sont des économies très intégrées avec des relations d'affaires militaires très importantes. On a des ressources ici au Canada qui sont très importantes pour les États-Unis, pour leur croissance économique. Donc, on est, c'est des très bonnes relations à la base, autant au niveau personnel. Hein. On a des millions d'Américains qui vivent ici au Canada. On a plusieurs doubles citoyens aussi. Donc, on est intégré autant au niveau économique que social.
J'ai l'impression, c'est ce qu'on entend quand les journalistes font des vox pop aux États-Unis, c'est le côté vraiment, c'est l'économie. Les gens pensent que sous Trump, l'économie va mieux se porter que sous une administration démocrate. C'est vraiment, vraiment, vraiment là, ce qui ressort d'à peu près la bouche de tout le monde. Vous dites le Canada est un allié également, mais il y a le protectionnisme américain. Si les Américains pensent que ça va être bon pour eux, est-ce que vous pensez que oui, on a des liens, mais on sait qu'il veut son slogan Make America Great Again, donc s'approprier, rapporter de l'économie, favoriser l'économie pour que les Américains tirent leur épingle du jeu. Pensez-vous que ça pourrait se faire au détriment du Canada?
Je pense vraiment que nos économies se soutiennent mutuellement. Donc, je pense que les États-Unis ont besoin d'une économie canadienne forte et que nous aussi, on a besoin d'une économie américaine forte. Donc, il y a peut-être des discours, mais il y a la pratique aussi, les entreprises qui sont dans les deux pays de manière intégrée. Donc, je pense que la réalité économique, puis c'est ce qu'on a vu dans le premier mandat de Donald Trump, qui arrivait avec des grands slogans là, comme protectionnisme, mais en bout de ligne, les entreprises ont bien fait comprendre l'intérêt des États-Unis dans le partenariat avec le Canada.
Les relations entre le Canada et les États-Unis, on dit, on s'est préparé, on connaît tout ça. Il y a M. Trudeau qui a remercié, en fait, qui a félicité Donald Trump en disant que l'amitié entre le Canada et les États-Unis font des jaloux, mais ils sont quand même pas sur la même longueur d'onde, là. Comment vous anticipez des négociations sur différents traités, sur différentes politiques lors de rencontres entre M. Trudeau et M. Trump? Je sais que ça va se faire de façon très polie, de façon courtoise, mais quand même, on sait que M. Trump, je me souviens encore de l'image où il tirait sur la main du premier ministre en lui disant bonjour, puis que M. Trudeau se laissait pas faire, les deux tiraient un peu de leur bord en se serrant la main, c'était une joute. En tout cas, bref, comment vous entretenez? Oui, on se prépare à ça, mais est-ce que vous auriez préféré une administration démocrate pour les relations avec les États-Unis et le Canada?
Oui, ben moi, j'ai été négociatrice pour le Canada et j'ai fait partie de la négociation avec les États-Unis d'une convention fiscale. Donc, je connais un peu la façon dont ça fonctionne. Il y a le positionnement politique, quelle image on veut donner, mais en dessous de tout ça, tu as le pragmatisme économique. Et comme je disais tout à l'heure, on a un intérêt mutuel à s'entraider économiquement pour être une force économique. Donc, les États-Unis ont besoin du Canada pour performer dans leur économie et le Canada a besoin des États-Unis pour performer dans son économie. Donc, il y a des enjeux plus pointus qui sont plus difficiles. Par exemple, le bois d'œuvre en est un qui perdure depuis plusieurs années. Il y a des dossiers comme ça qui sont plus difficiles, mais dans l'ensemble, les négociations économiques ont toujours bien été avec les États-Unis.
Sur la scène internationale, là, M. Trump a dit souvent qu'il réussirait à régler la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 24 heures. Il y a une approche différente aussi. Tu sais, on parle avec Israël, la Palestine. Il y a certains conflits internationaux sur lesquels on porte notre attention depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait changer l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis dans des conflits où il s'est déjà dit capable de régler certains conflits ou avec une approche différente des démocrates? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus?
Oui, ben on va surveiller les prochaines. C'est sûr qu'il va entrer en position le 20 janvier prochain. Donc à ce moment-là, évidemment, il va avoir des changements peut-être de position. Mais en bout de ligne, je pense que l'OTAN est une organisation importante que j'espère qu'il va continuer de soutenir. parce que vraiment, ensemble, on est vraiment plus fort face à des ennemis qui pourraient menacer nos démocraties et notre économie. Donc, je pense que ça va être, d'une part, il y a un positionnement peut-être politique, mais encore une fois, il va y avoir le pragmatisme et qu'il faut vraiment mettre de l'avant nos économies, nos démocraties en Amérique du Nord et avec nos alliés en Europe. Donc, ça va être des discussions intéressantes, mais j'espère voir un soutien à l'OTAN parce que c'est une institution qui nous maintient en sécurité depuis de nombreuses années. Et l'Alliance, l'union fait la force, comme on dit. Alors, s'il y a un moment dans l'histoire où on doit s'unir entre démocraties, c'est celui-ci. Donc, on va voir. C'est inquiétant, mais j'ai quand même bon espoir que l'OTAN va être une organisation forte puis va savoir s'ajuster à cette présidence-là.
Rapidement, avant de se quitter, on a des élections canadiennes qui pourraient se tenir bientôt. Si la question économique semble avoir peut-être fait pencher la balance aux États-Unis, on entend aussi beaucoup ce message-là du chef conservateur ici au Canada. Ça semble résonner aussi chez plusieurs qui peinent à payer, à joindre les deux bouts. C'est un peu ce qu'on a vu aux États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'on a peut-être eu un avant-goût de ce qui nous attend aux prochaines élections canadiennes?
Bien, moi, je suis toujours d'avis que c'est l'économie. C'était le cas dans la pandémie. Fallait vraiment stabiliser notre économie, empêcher des fermetures d'entreprises, des pertes d'emplois. Donc, bien gérer les crises économiques, comme on l'a vu, bien gérer la crise inflationniste comme on l'a gérée, bien gérer la reprise économique, mettre de l'avant des bonnes politiques pour avoir une économie stable, une économie forte. Puis c'est ça qu'on a mis en place. Donc oui, ça prend un gouvernement qui comprend l'économie, qui est capable de traverser des crises comme le gouvernement libéral l'a démontré. Et on va voir, là, en 2025, on va voir les fruits d'une stabilité puis d'un engagement économique solide. On va voir que l'économie va reprendre en 2025. Les gens vont sentir là, que l'inflation est derrière nous. Leur pouvoir d'achat va augmenter. Donc, avec cette reprise économique-là, je pense que les Canadiens, en 2025, vont avoir un choix clair. Est-ce qu'ils investissent dans un gouvernement qui comprend l'économie, qui est capable de gérer des crises économiques pour aller de l'avant puis bâtir une économie plus forte, ou ils vont choisir une alternative plus risquée?
On verra d'ici là. Sophie Châtel, donc, députée fédérale de Pontiac-Kitigan-Zibi au lendemain de ces élections américaines où Donald Trump a réussi, c'est une première en plus de 100 ans, là, à gagner deux élections non consécutives aux États-Unis. Donc, on verra, on suivra ça les prochains mois, mais également les prochaines années sous son administration. Madame Châtel, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Félix-Antoine, et bonne journée.
Très intéressant tout ça. On change de registre complètement au retour de la pause. Frédéric Parizeau, directeur du RLS des Collines de l'Outaouais et directeur des services préhospitaliers d'urgence, nous parle de l'impact que l'investissement consacré par Québec à Masham pour améliorer la couverture ambulancière pourrait avoir un effet collatéral dans la vallée de la Gatineau.